décidé finalement pour constituer, si vous ne l'avez pas encore fait, le dossier qui vous permettra de candidater sur des postes de directeur d'école. Donc ça, je vous prie aussi d'excuser l'absence de Virginie Chupin, qui est notre directrice DRH adjointe et qui est sur une autre réunion à l'heure actuelle avec la secrétaire générale, et donc qui s'excuse et qui ne peut pas être présente avec nous cet après-midi sur ce webinaire. L'objectif pour les nouveaux surtout, parce qu'il y a quelques anciens qui connaissent déjà le réseau, l'objectif c'est de vous présenter assez rapidement qu'est le réseau des lycées français à l'étranger et comment il est constitué. Donc, vous allez candidater sur les lycées français du réseau des établissements en gestion directe et conventionnée de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Pour les nouveaux, vous voyez, j'ai déjà employé deux mots, en gestion directe et conventionnée. Donc, gestion directe, ce sont des établissements qui s'apparentent à des écoles, des EPLE, par exemple, pour les établissements collèges et lycées, des écoles primaires publiques en France. C'est une gestion qui se fait directement via l'AEFE en termes d'organisation, notamment budgétaire et financière. Les établissements conventionnés ont cette spécificité d'être des établissements qui ont une convention avec nous et qui sont pilotés dans la gestion, notamment financière, par des associations de parents d'élèves qui créent des comités de gestion, mais ça peut être par des boards dans certaines parties du monde, des juntas dans certains pays d'Amérique latine, et ce sont ces parents qui ont la gestion, si vous voulez, de la gestion financière de l'établissement, et nous les accompagnons sur beaucoup de missions, mais notamment sur le recrutement de personnel, à la fois des personnels d'encadrement, dont vous faites partie, et à la fois des personnels d'enseignement. Et enfin, il y a une troisième catégorie que je ne veux pas oublier, même si aujourd'hui elle ne nous concerne pas dans le cadre du recrutement. Ce sont les établissements partenaires qui sont de plus en plus nombreux, qui sont des établissements qui appartiennent, eux, au réseau de l'enseignement français à l'étranger, mais qui ont la spécificité de n'être que des établissements totalement privés, qui assurent eux-mêmes le recrutement et le financement de leurs établissements. Donc, cette agence aujourd'hui, sans vous donner des grachis, parce que je pense que vous êtes déjà allé voir le site de la EFE, si vous êtes ici, c'est que vous y êtes déjà intéressé, que vous avez déjà regardé notre site, que vous avez déjà pris des informations, que vous avez certainement écouté le message de bienvenue de notre nouvelle directrice générale de l'agence, Madame Claudia Schaeffer-Effos. Donc, vous êtes déjà au courant de pas mal de choses. Néanmoins, ce qui est important, c'est que ce réseau AEFE pilote 580 établissements dans le monde pour à peu près 112 pays, que nous avons à peu près 5 700 personnels dans le réseau détachés et que nous scolarisons à peu près 400 000 élèves à cette rentrée dans ce réseau des lycées français à l'étranger. Alors, une des spécificités de ce réseau, c'est que beaucoup d'établissements vont de la maternelle à la terminale. Et que donc, quand vous allez être dans des établissements qui vont de la maternelle à la terminale, vous allez être directeur d'école, mais vous allez être aussi l'adjoint d'un chef d'établissement. Donc, sur cette mission qui va être la vôtre en tant que directeur d'école, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'elle va changer de celle que vous avez en France, parce que le directeur d'école à l'étranger, il a une position hiérarchique vis-à-vis de ses personnels d'enseignants, professeurs des écoles. Et qu'il travaille, lui, sous l'autorité du chef d'établissement. In fine, c'est quand même le chef d'établissement qui est responsable de tous les PE. Ce n'est pas vous totalement, vous le faites par délégation du chef d'établissement. Donc cette mission, elle est importante parce que vous allez être l'adjoint d'un chef d'établissement. Dans des plus petits établissements, vous allez être juste avec un personnel d'encadrement. Et puis, on peut avoir des écoles primaires qui, malheureusement, s'arrêtent non pas à la fin du cycle 3, mais juste avant, à la fin du CM2. Et donc là, vous allez être directeur d'école et vous allez faire, pendant la mission qui sera la vôtre, entre guillemets, fonction de chef d'établissement, c'est-à-dire que vous allez devoir piloter des instances. C'est pour ça qu'on vous appelle faisant fonction de chef d'établissement. Vous allez piloter des instances du réseau, c'est-à-dire non seulement le conseil d'école que vous gérerez partout, mais aussi un conseil d'établissement, parce que très souvent, vous essayez d'avoir du CNED sur du collège, par exemple, hein, du cycle 4. Et donc, vous allez devoir gérer un conseil d'établissement, ce qu'on appelle un conseil d'établissement. Vous allez devoir piloter des examens. Vous allez devoir, enfin, il y aura pas mal d'actions. Vous allez devoir faire le budget. Vous allez devoir faire le compte financier de votre établissement. Donc, c'est pour ça que vous allez assumer cette fonction en tant que directeur d'école, mais que vous assumerez aussi une mission de chef d'État. Enfin, qu'on appelle sa chef d'établissement, sans que le mot chef d'établissement soit rattaché à la fonction de chef d'établissement. Je ne sais pas si je suis clair avec ça. Je crois que vous savez très bien aujourd'hui les réticences de nos chefs d'établissement pour que parfois les directeurs d'école soient reconnus comme des chefs d'établissement, pour que vous compreniez bien qu'on essaie de jouer sur les mots, mais c'est bien une mission de responsable total que vous avez dans ces petites écoles. Pour que vous ayez quelques éléments, si vous voulez, structurants de notre réseau, le contexte, il fait que depuis 2018, où M. Macron avait demandé à l'AEFE de prévoir jusqu'à 2030 le doublement des effectifs, une des grandes défis auxquels est confrontée l'AEFE, c'est le développement de son réseau. Avec donc cette volonté qui a été réaffirmée hein, par M. Macron, par notre ministre des Affaires étrangères, de doubler les effectifs pour la rentrée 2030. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, on en est loin, hein, puisqu'on était à l'époque à 370 000, donc il faudrait qu'on arrive à 740 000. Cette année, on va arriver peut-être à 400 000, vous voyez que la marche est encore haute. Mais cette demande-là, institutionnelle, elle est aussi au cœur de ce que vous allez faire dans tous les établissements. C'est-à-dire qu'à l'établissement, vous allez non seulement piloter une école avec des personnels enseignants, personnels titulaires ou personnels recrutés locaux, je vais y revenir juste après, mais vous allez être aussi en charge d'imaginer comment vous pouvez faire évoluer la structure et accueillir plus d'élèves. Ça fait partie aussi de choses qu'il faut faire. Le développement, ce n'est pas uniquement créer de nouvelles écoles. C'est aussi développer ses propres écoles pour augmenter l'attractivité, pour accueillir de nouveaux enfants, pour imaginer des dispositifs d'accueil pour des enfants étrangers, etc., etc. Pour tout cela, vous allez être accompagné avec des professeurs, des enseignants. Et là aussi, on a deux catégories d'enseignants. Vous avez des enseignants détachés, hein, alors avec deux statuts encore, puisque on a un nouveau décret qui gère maintenant les personnels. Donc vous avez des détachés enseignants. Vous avez ce qu'on appelait avant des résidents. Ce sont des gens qui ont été recrutés il y a plusieurs années et qui ont gardé ce statut de résident. En fait, les rémunérations sont les mêmes, sauf que dans un cas, les résidents peuvent rester dans l'établissement. Les nouveaux détachés, eux, ils ont une durée de détachement à l'étranger limitée, puisqu'ils ne peuvent pas faire plus de 6 ans continus en détachement. Après, ils doivent rentrer en France. Donc, vous allez avoir ça. Et à côté de ça, vous avez des recrutés locaux qui sont nombreux dans beaucoup d'établissements et que vous allez devoir accompagner avec vos collègues sur la qualité de l'enseignement, voire de la formation, voire de les promouvoir, de les évaluer, de travailler avec eux et de faire en sorte que ces personnels d'encadrement, des personnels recrutés locaux, aient aussi les compétences requises presque identiques à celles des personnels titulaires pour enseigner dans nos écoles primaires du réseau à l'étranger. Un des focus importants du premier degré, c'est la maternelle aussi. Parce que c'est nous, on essaie d'avoir un raisonnement cylindrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, hein, je rentre d'une mission en Espagne où la situation est clairement déficitaire sur les maternelles liées à la démographie du pays. Et donc, il y a toute une réflexion, et à la concurrence, hein, il y a toute une réflexion que vous aurez aussi à mener, parce que nous, c'est l'appel d'air, c'est-à-dire c'est par là que rentrent les enfants, et c'est là souvent où les parents, dans notre réseau, s'inscrivent dans la durée. Pour ceux qui recandidatent ou qui ont déjà connu ce réseau, il est quand même très souvent, vous voyez, des élèves qui sont issus d'enfants qui ont eux-mêmes fait leurs études, de parents qui ont eux-mêmes fait leurs études dans le lycée, enfin, dans tous les lycées du monde, on a ça. Donc, quand on s'engage en maternelle dans notre établissement, on a vocation à y rester assez longtemps, d'où la nécessité d'avoir cette réflexion complète sur le développement de la maternelle et le développement de votre établissement. Alors, vous ne le ferez pas seul, bien sûr, il y a différentes personnes qui vont rentrer en jeu dans ce développement-là. Le contexte général pour vous aussi, ce qui est important, c'est que vous allez quitter l'éducation nationale, pas tout à fait, mais un peu. Vous allez la quitter pour être prise en charge par un contrat que l'agence va mettre en place. Et le ministère de tutelle de l'AEFE, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ça, c'est important, parce que votre mission, elle prend une dimension rayonnement de la France, elle prend une dimension et une posture d'un des personnages importants dans un pays à l'étranger auprès du poste diplomatique. Votre supérieur hiérarchique, c'est l'ambassadeur de France sur place. Alors votre vrai supérieur hiérarchique, c'est la directrice de l'agence, puisque le contrat sera signé par moi, par délégation de la directrice. Mais c'est elle qui est quand même votre employeur. Sur place, c'est l'ambassadeur de France, et cet ambassadeur, il va déléguer aussi la responsabilité très souvent à un conseiller de coopération et d'action culturelle qui sera en relation avec votre chef d'établissement ou avec vous pour tous les actes de l'établissement. Donc ce changement, si vous voulez, de responsabilité, il est quand même important. Néanmoins, on reste très proche de l'éducation nationale, et on reste très près. Pourquoi? Parce que tous les établissements de l'AEFE, comme de l'EFE, c'est-à-dire tous les établissements partenaires conventionnés et EGD, sont tous homologués par l'éducation nationale. Et c'est l'éducation nationale qui fait l'homologation. Ce n'est pas l'AEFE. Nous y participons, mais in fine, ce qui donne l'homologation, c'est l'éducation nationale. Ça, c'est très important. C'est très important parce que dans tous les établissements où vous allez être, il faut vous assurer que l'enseignement que l'on donne aux élèves est le même quand on est en Asie que comme on est en Amérique du Sud, et le même que si on est à Nantes ou à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, c'est important que ça soit au cœur de votre mission, et il faut le rappeler de temps en temps aux enseignants, et il faut rappeler que ce qui fait la grandeur de ce réseau, c'est l'homologation. Parce que du coup, un enfant qui rentre en France, eh bien, il a une continuité. Un enfant qui vient chez nous parce qu'il était en France, il a une continuité. Et le post-bac est aussi une continuité, etc. Et c'est cette cohérence entre le système français et nos établissements à l'étranger qui donne aussi de l'attractivité à notre réseau pour des familles qui, à un moment donné, ont le souhait de s'expatrier ou qui ont une opportunité pour aller à l'étranger parce qu'ils savent que leurs enfants continueront à étudier et pourront poursuivre leurs études comme s'ils avaient continué en France. Et ça, c'est vraiment très important. Et vous êtes au démarrage, je dirais, de la pyramide, et vous êtes les éléments importants. Et quand je parle de pyramide, je le fais sciemment parce que c'est quand même nos établissements scolaires, on est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a une base qui est très développée souvent sur le premier degré dans son ensemble, hein, maternelle, élémentaire, et on a un schéma qui se raccourcit un petit peu sur le lycée, puisque d'abord tous les établissements n'ont pas de grands effectifs en secondaire. Alors, on a des monstres d'établissements, hein, mais on a aussi des établissements qui ont quelques élèves en seconde, quelques élèves en première, quelques élèves en terminale, mais souvent avec une base dans le second degré dans le premier degré qui est importante. Nous, ce qu'on veut, c'est que petit à petit, on structure nos établissements en cylindre un petit peu et qu'on fasse tous le travail pour que ces enfants restent chez nous, pour que ces élèves restent chez nous. D'où l'importance, par exemple, et vous en serez les garants, du travail avec, par exemple, le conseil école-collège. Parce que c'est au cœur de ce projet. Vous serez aussi les garants, à travers le conseil d'établissement, le projet d'établissement, que ce projet d'établissement intègre le projet d'école et qu'il y ait une cohérence entre le projet d'école et le projet d'établissement, notamment sur la partie des langues, qui est au cœur notamment de ce développement et de l'attractivité de vos établissements. Donc, vous voyez, tous ces enjeux qui sont des enjeux, en fait, que vous connaissez déjà, mais qui sont vraiment je dirais, regarder avec la plus grande attention par tout le monde. Parce que dans cette mission à l'étranger, il y a quand même un élément important, c'est que vous devenez un cadre de l'ambassade, un cadre qui représente la France, et donc vous allez être regardé, suivi, et on va vous attendre. C'est-à-dire que dès que vous allez être nommé, ne vous inquiétez pas, avec les réseaux sociaux, ils sauront d'où vous venez, ils sauront ce que vous avez fait avant, et ils sauront ce que vous allez faire. Et si malheureusement, il y a eu si vous n'avez pas été attentif aux réseaux sociaux, il y a eu quelques trucs, ça va aussi concourir à l'image qui sera véhiculée pour votre future affectation. Donc soyez attentif à ça. C'est-à-dire, je le redirai plus tard, mais les réseaux sociaux, la communication, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut maîtriser, y compris, alors bien sûr professionnellement, la communication professionnelle, mais y compris votre communication personnelle, vos réseaux sociaux perso. On a malheureusement des gens qui se sont fait capturer des messages sur leur réseau personnel et avec qui on a dû travailler pour essayer de les accompagner parce que la situation est devenue compliquée pour eux. Donc voilà, on a toute cette. Voilà ce qu'est la mission à l'étranger, au-delà du poste de directeur d'école et au-delà De votre pôle. Je dirais quand même, pour terminer, après je vais laisser mes collègues donner des informations que vous attendez sur les procédures de candidature et de recrutement. En gros, le métier à l'étranger, alors s'il y en a qui sont, j'espère surtout que ceux qui sont en deuxième mission ou qui reviennent chez nous vont être d'accord avec ce que je vais dire, sinon je serai inquiet. Il est le même au départ. Il est le même. Vous êtes un directeur d'école, vous êtes en charge avec, alors vous aurez peut-être une décharge complète, ce qui est très souvent le cas, soit une demi-décharge, soit un quart de décharge, mais c'est très rare. Et vous êtes en responsabilité de collègues et vous avez les mêmes engagements professionnels que ceux que vous exercez en France. Mais nous sommes à l'étranger. Et donc les attentes des parents ne sont pas les mêmes. Pour une raison essentielle. C'est que la scolarité est payante, parfois d'une manière un peu élevée. À partir de ce moment-là, même si nous, on est attaché et on maintient qu'on est un service public d'enseignement attaché aux valeurs de la République française, on est pour les parents un service. Ils sont clients de l'école. Et comme on est un service, il faut qu'on soit à la hauteur du service que l'on donne et du coût de ce service. Et ça génère obligatoirement un regard très attentif des parents, parce que ce qui va changer pour vous, c'est la pression parentale. Et ce qui va changer pour vous, c'est la pression à la fois cumulée du post-diplomatique qui regarde ça de très près, surtout quand ça se passe mal, de l'agence qui met de la pression régulièrement, et des parents d'élèves. Voilà. Et puis, n'oublions pas les syndicats, peut-être, qui seront là pour. Alors, ce n'est pas du tout pour vous faire peur, hein, mais c'est pour vous montrer que, voilà, on est dans un système à l'étranger où la pression est importante. D'où l'importance de ne pas s'isoler, de communiquer avec les collègues et d'être proche de tous les collègues pour que vous soyez en capacité d'assumer la mission que l'on peut vous confier. Voilà un petit peu quelques éléments, je dirais, structurants sur ce qu'est ce réseau, ce qui vous attend. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues pour qu'on vous présente d'abord le dépôt des candidatures, le recrutement, et puis je reviendrai à la fin sur quelques éléments généraux.
Alors bonjour à nouveau à tous et à toutes. Alors avant toute chose, je voulais quand même vous dire que vous ayez déjà candidaté, enfin que vous ayez déjà saisi votre dossier ou pas, d'aller lire le site de l'AEFE, la rubrique personnelle, où on vous donne beaucoup d'informations qui peuvent vous aider d'ailleurs à saisir votre dossier. Donc le site est ouvert depuis 2 semaines maintenant. Il refermera le jeudi 28 septembre à minuit. Je précise minuit parce que si vous n'avez pas procédé à la validation finale de votre dossier, il sera trop tard et nous ne récupérons aucun dossier en dehors des dates d'ouverture. Donc sur ce site de saisie, vous devez remplir toutes les pages. En bas de chaque page, vous avez des explications, parfois juste pour vous donner le format pour rentrer une date de naissance, mais parfois ça peut être beaucoup plus important. Je pense notamment à l'étape 6 du site où vous devez rentrer des vœux. Vous avez en directeur, directrice d'école, vous avez 31 postes vacants. Pour ceux qui ont déjà saisi leur dossier, vous avez vu que lorsque vous allez dans la loupe, il y a 46, 47 postes qui vous sont proposés, puisque dans l'application, tous les postes du premier degré vont apparaître, donc les postes de formateur EMFE ou CPAIEN apparaissent également. Donc, vous regardez bien, en fait, en fonction si le poste est un poste de direction ou pas. Donc, on vous demande d'être. Alors, ensuite, vous allez donc valider votre dossier. Vous allez récupérer un PDF. Hein. On vous demande de respecter autant que possible l'ordre des documents qui est indiqué d'une part sur le site de saisie à l'étape 7, qui est indiqué également sur le dossier C. Pour nous faciliter la tâche, on reçoit beaucoup de dossiers sur tous les métiers. On vous demande également d'être le plus concis possible dans la constitution de ce dossier et d'essayer de ne mettre que les documents qui vont pouvoir être utiles pour votre candidature. Donc justement, si je rappelle quelques règles administratives, vous devez déjà être sur un poste de direction ou l'avoir été très récemment. On vous demande une expérience d'au moins 3 ans dans des écoles d'au moins 8 classes. Après, on étudie les dossiers. Si vous êtes dans une école de 6 classes, 7 classes, c'est pas rédhibitoire, hein. On va étudier votre dossier, bien sûr. Vous devez être titulaire, bien sûr, de la fonction publique française depuis au moins 2 ans. Vous pouvez être en position d'activité en position de disponibilité, en position de détachement. Alors attention au détachement, il faut qu'il ait pris fin au plus tard le 31 août 2024 pour que votre dossier soit recevable. Tant que vous serez en cours de détachement, votre dossier sera automatiquement, vous aurez une information comme quoi votre dossier est irrecevable. Donc nous allons recevoir les dossiers, nous allons accuser réception à partir du moment où le dossier sera complet. C'est-à-dire le dossier que vous allez nous renvoyer via la plateforme France Transfert et les avis hiérarchiques. Alors les avis hiérarchiques, c'est à vous, vous devez envoyer votre dossier. Alors si vous êtes en France, vous envoyez une copie de votre dossier à votre IEN de circonscription qui lui ou elle l'enverra à votre DAZEN. Chacun des deux devant mettre un avis. Ensuite, le DAZEN, enfin via la DSDEN en tout cas, nous renverra uniquement la page de vos avis. Si vous êtes à l'étranger, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez deux autres exemplaires à envoyer, un à votre DAZEN en France et un par la voie hiérarchique à l'étranger, donc votre chef d'établissement qui lui ou elle le transmettra au COCAC. Quand nous avons reçu les dossiers, les avis hiérarchiques, nous accusons réception des dossiers. Donc, vous ne vous inquiétez pas, on va accuser réception tout au long du mois d'octobre. Moi, je ne vous donne pas de date. Alors, on vous donne une date butoir du 5 octobre pour nous renvoyer les dossiers via France Transfert. Ça, c'est très important. Pour ce qui est de la transmission à votre hiérarchie, ça vous appartient. Vous devez le faire le plus rapidement possible et par les moyens que vous souhaitez, que ça soit sous format papier, que ça soit sous format dématérialisé, c'est à vous de voir. Nous, on n'a pas à intervenir en tout cas dedans. Donc, une fois qu'on a accusé réception de votre dossier, nous allons rentrer dans une phase d'étude de vos dossiers pour constituer une liste de présélectionnés qui viendront passer un entretien. Donc, cette phase d'étude, elle est conjointe entre le bureau du recrutement et le service pédagogique, une présélection qui va être validée en groupe de travail avec les représentants du personnel, à l'issue de quoi vous recevrez un mail de notre part. Je fais un petit aparté par rapport au mail, nous communiquerons avec vous uniquement par mail, et c'est l'adresse mail que vous aurez indiquée dans votre dossier. On vous demande de faire très attention à la saisie de cette adresse mail, hein, puisque ça part directement de notre application, et puis d'éviter autant que possible les adresses académiques qui ne font pas toujours bon ménage avec notre logiciel de gestion. Alors, vous recevrez donc un mail de notre part, soit, alors vous n'êtes peut-être pas présélectionné, mais vous aurez une petite phrase d'explication dans le mail qui, si elle ne vous suffit pas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, nous sommes deux à gérer le premier degré, donc moi-même et puis Madame le Maître qui s'est présentée tout à l'heure. Donc vous pourrez revenir vers nous peut-être pour avoir une explication peut-être un peu plus importante. Et puis l'autre cas de figure, vous êtes présélectionné, donc dans le mail vous aurez toutes les modalités liées aux entretiens qui se dérouleront, je crois, dans la première quinzaine du mois de février. Donc ça démarre peut-être à la fin du mois de janvier, j'ai plus les dates en tête. Mais elles sont sur le site, oui, tout est indiqué. Donc un entretien qui va se dérouler, enfin qui va durer 30 minutes, dont 10 minutes de votre part, de présentation de votre projet, de vos motivations, 20 minutes avec les membres de la commission qui sont au nombre de 3, donc un inspecteur de l'éducation nationale, un ou une représentante du bureau du recrutement. Je pense que ça sera souvent moi, Madame le Maître aussi certainement. Et puis, alors, une autre direction très souvent qui travaille avec nous, la direction du développement et de l'accompagnement du réseau dont a parlé tout à l'heure Monsieur Pujol. Donc, ils sont dans la commission avec nous. Moi, je vous invite quand même à aller lire vraiment tout ce que vous pourrez trouver sur notre site pour savoir effectivement quels sont leurs rôles à ces personnes-là et pourquoi ils interviennent également sur les entretiens. À l'issue des entretiens, nous allons donc il va y avoir des gens à qui on va proposer un poste. Donc de toute façon, que vous ayez une proposition de poste, que vous soyez placé sur liste de réserve, que vous soyez troisième cas de figure non retenu, c'est validé en commission consultative paritaire, à l'issue de laquelle on vous renverra un mail. également pour vous dire, vous n'êtes pas retenu, vous avez une phrase explicative. Alors, là encore, je vous invite à revenir vers nous. Alors peut-être attendre, vous le saurez à la fin du mois de février, hein, la commission a lieu à la fin du mois de février, peut-être attendre la fin du mois de mars pour nous recontacter de façon à ce qu'on ait plus de temps, puisque le mois de mars va être consacré pour les personnes qui ont une proposition de poste au suivi de ce recrutement. Mais en tout état de cause, nous répondons à toutes les demandes le plus rapidement possible. Donc, si vous êtes placé sur liste de réserve, c'est qu'on n'a peut-être pas trouvé au moment de l'entretien une adéquation entre votre profil et les postes qui sont vacants. Pour autant, on retient quand même votre candidature et en cas de poste supplémentaire ou une personne qui a une proposition de poste qui s'est désistée, on pourra revenir vers vous, peut-être pas forcément sur un poste que vous aurez demandé, mais au moins par rapport à votre profil et au poste, et on essaye toujours de trouver une adéquation entre les deux, en tout cas. Si on vous fait une proposition de poste, donc vous recevez un mail, une proposition. Normalement, je devrais vous laisser environ une semaine pour répondre à cette proposition. Vous avez le droit à cette étape, et d'ailleurs à toutes les étapes, hein, de la campagne de recrutement, de refuser même si vous avez candidaté. Vous avez le droit d'avoir changé d'avis. Vous avez peut-être une contrainte familiale qui fait que vous ne pouvez plus partir à l'étranger. Donc, vous avez le droit de nous dire non, on ne vous en voudra pas, ne vous inquiétez pas. Mais en tout état de cause, moi, je vais vous laisser une semaine pour répondre. Une semaine que vous mettrez à profit, c'est très important, pour appeler les établissements, pour essayer d'avoir plus d'informations possibles liées effectivement à votre future fonction, liées au pays dans lequel on vous a proposé le poste. Également, sur la proposition de poste, vous aurez le nom de votre gestionnaire administratif qui va vous gérer le temps que vous serez à l'étranger, qui va vous gérer administrativement et financièrement parlant, de la même façon que vous avez aujourd'hui un ou une gestionnaire à la DSDEN. Donc, vous aurez le nom de cette personne. Appelez-la, appelez cette personne aussi, hein, pour avoir le plus d'informations possibles, pour pouvoir nous répondre avec tous les éléments, pour pouvoir être sûr. Le but, nous, c'est que effectivement vous partiez dans les meilleures conditions possibles. Et le but n'étant pas que vous reveniez au bout d'un an. Le but, c'est quand même de faire la mission autant que possible en entier, donc de 3 ans initial plus 1 an plus 1 an, donc 5 ans. Donc voilà, si vous avez accepté le poste, alors attention, c'est pas parce que l'AEFE vous propose un poste que vous partez tout de suite, hein. C'est soumis quand même à 2 conditions très importantes. L'accord du détachement par votre ministère, votre administration d'origine. Le détachement n'est pas de droit, donc il faut le savoir, ils peuvent vous le refuser. Et puis l'autre condition, c'est l'agrément du poste diplomatique. Alors, il faut savoir que ces 2 demandes, c'est nous qui les ferons. On vous demandera de remplir des documents que vous nous renverrez et nous ferons ces demandes pour vous et nous assurerons le suivi. Tant que vous n'avez pas eu la réponse à ces 2 conditions très importantes, n'engagez rien. Je le dis parce que j'ai encore eu le cas l'année dernière d'une personne qui m'a dit qu'elle avait vendu sa maison. Et c'est pas le but, hein. Il faut vraiment que vous soyez sûr. Jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas jusqu'au bout, il peut y avoir un problème et vous ne partez pas. Donc, voilà. Donc, la phase du recrutement, je pense que j'ai à peu près tout dit. La phase du recrutement se termine une fois que vous êtes recruté, que vous avez eu le détachement, vous avez eu l'agrément du poste diplomatique. Votre dossier partira donc à la gestion administrative et financière qui vous prendra en charge de même qu'au service des voyages. Mais Madame Chartier va vous expliquer en détail tout le suivi du recrutement. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Chartier.
Donc, poursuivons la procédure, effectivement, une fois que le bureau du recrutement a obtenu l'agrément du poste diplomatique et donc votre arrêté de détachement, le bureau de la gestion administrative et financière va vous contacter pour vraiment rédiger votre contrat et lancer la paye pour ce poste. Des éléments importants par rapport à ce contrat, en fait, vous êtes détaché sur contrat. Donc, en fait, le détachement est prononcé dans un premier temps pour 3 ans, et ensuite, vous avez la possibilité de renouveler le détachement pour 1 an, puis encore une autre année, donc au total 5 ans sur le même poste. Pendant la durée de ce détachement, vous allez garder votre traitement indiciaire que vous avez donc en France, qui est lié à votre grade et échelon, et viendra s'ajouter en fait une indemnité qui est une indemnité géographique et de fonction spécifique. L'ancienne indemnité d'expatriation pour les collègues qui sont connectés et qui sont actuellement expatriés. Cette indemnité, en fait, elle est calculée en fonction des fonctions, donc fonction de direction d'école, et elle varie surtout en fonction de la ville dans laquelle vous êtes affecté. C'est très important ce point parce que vous pouvez avoir communication de cette indemnité. Il faut la prendre avec beaucoup de prudence parce qu'en fait, elle est liée aussi aux conditions d'exercice dans la ville, dans le pays. Donc, il peut y avoir parfois des indemnités qui sont très attractives, le montant est très important, mais comme le disait Sylvie Roche tout à l'heure, il faut vraiment se rapprocher de vos collègues qui sont en poste ou des chefs d'établissement, si vous le pouvez, pour avoir en fait une idée du coût de la vie parce qu'elles tiennent forcément compte du coût de la vie et cette indemnité, elle n'est pas à prendre de façon brute, en fait. Il faut vraiment se rapprocher de l'établissement pour voir quelles sont les conditions de vie locales. Au-delà de cette rémunération, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir toucher des majorations familiales. Elles sont versées, en fait, pour tous les enfants jusqu'à 21 ans. Elles permettent de couvrir les frais de scolarité qui, vous avez pu le voir en vous renseignant peut-être déjà, peuvent être très importants, mais ces majorations familiales permettent de les couvrir. Concernant les enfants, un point important aussi, en bas de chaque profil de poste, vous avez pu constater, on a indiqué scolarisation ECL. Dans certains postes, en fait, il n'y a pas de possibilité de scolarisation des enfants en direct, en collège ou en lycée. Cette scolarisation, parfois, est possible via le CNED. Donc, c'est un élément important à prendre en compte au moment de votre candidature, de bien envisager cette scolarisation par le CNED s'il y a lieu de façon familiale et de. Voilà, c'est pas la même scolarisation qu'en direct. Donc, c'est un point important dans votre choix de poste quand vous allez choisir les vœux formulés dans votre dossier. Pour continuer sur la prise en charge en fait financière ou sur ce contrat, c'est un contrat détaché donc sur des fonctions d'encadrement, fonction de directeur d'école. Donc l'agence prend en charge le voyage de prise de poste pour vous et votre famille, donc votre conjoint si vous êtes pacsé ou marié et vos enfants, et verse également une indemnité de changement de résidence, qui dépend également d'où vous partez et où vous allez. Donc, sur cette simulation d'indemnité de changement de résidence, on ne peut pas la faire là quand les vœux sont publiés. On pourra faire une simulation quand on vous proposera un poste parce qu'il y a trop d'éléments qui rentrent en compte dans le calcul de cette indemnité et on ne peut pas vous donner rapidement et facilement le montant de cette indemnité. Mais sachez qu'elle est versée pour une part forfaitaire de 80% après la signature du contrat. C'est toujours le contrat qui est le déclencheur, hein, pour que ce soit le voyage ou l'indemnité. Et les 20% restants sont versés en fait sur production de factures. Hein. Une fois que vous avez effectué votre déménagement, vous nous envoyez les factures. Et si le montant total des factures dépasse 66% de l'indemnité totale, on vous versera le solde. Donc, ce sont les mesures d'accompagnement qui sont mises en place pour la nomination. Ce sont les mêmes à la fin de la mission. Quand vous rentrez de mission, on prendra en charge également le voyage et on versera l'indemnité de changement de résidence. Et pendant la durée du contrat, il y a aussi des voyages de congé qui sont possibles. Alors, en fait, les voyages de congé sont mis en place en fonction du temps de séjour imposé qui est fixé par un arrêté. Ça peut aller de 1 an à 3 ans, suivant le pays dans lequel vous êtes et qui vous permet de rentrer. En général, les collègues le prennent l'été, en fait, qui vous permettent de rentrer l'été en France. Donc voilà au niveau financier, administratif, en fait, la position qui est la vôtre pendant un contrat de détaché sur des fonctions de directeur d'école.
Merci Fabienne. Donc, quelques petits éléments aussi concernant votre candidature sur les vœux que vous allez mettre. L'AEFE recrute des personnels qui ont une notion de mobilité dans le réseau. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que vous fassiez plusieurs vœux. C'est-à-dire que le vœu unique, généralement, il est pas étudié. Ce qu'on prend en compte, c'est quelqu'un qui a envie de venir dans le réseau pour accompagner la dimension, si vous voulez, d'enseignement à l'étranger, des valeurs de notre système éducatif. Et donc, pour ça, c'est important. En revanche, on comprend très bien qu'il y ait des zones géographiques qui soient pour vous difficiles et que vous ne souhaitez pas y aller pour des problèmes, je dirais, de dangerosité, pour des problèmes politiques ou géopolitiques qui vous inquiètent. Et il suffit de nous le dire. Il suffit de nous le dire, il suffit de l'exprimer, mais je crois que c'est important que là aussi, vous ayez un regard sur les vœux dans leur ensemble. En sachant que vous avez les vœux, et puis vous avez une autre petite case qui est importante, ça s'appelle l'extension des vœux. Et donc, il faut que, et ça marche par zone géographique dans le monde. Et donc, c'est important que si vous souhaitez, par exemple, on a peut-être, je vous donne un exemple, on n'a que 3 postes sur l'Europe, et si vous mettez extension des vœux en Europe, par exemple, ça veut dire que si des postes apparaissaient ou si des postes se déclaraient vacants plus tard, eh bien on sait que vous êtes susceptible d'aller au-delà de ces postes-là, mais que peut-être, si vous avez fait que des vœux en Europe, vous souhaitez peut-être vous envisager que vous vous dites que l'Asie peut aussi être un poste intéressant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de postes, vous cochez Asie. Enfin, c'est important parce que nous, ça nous donne une vraie lisibilité de la manière dont vous êtes projeté sur cette mission à l'étranger. Ce qu'il est important aussi de rajouter par rapport à votre candidature, là, c'est que ce projet d'expatriation, parce que c'est ça, il faut qu'il soit réfléchi à la fois professionnellement et familialement. Parce qu'on a pas, malheureusement, on constate pas mal de déceptions, quelquefois, on va dire comme ça, parce que justement, on n'a pas envisagé toutes les problématiques qui pouvaient se poser en partant à l'étranger. Une des premières problématiques, c'est par exemple le travail que fait votre conjoint ou la personne avec qui vous allez partir. Vous êtes peut-être en France avec 2 emplois et quand vous allez arriver là-bas, il n'y en aura plus qu'un. Alors, vous avez beau toucher les majorations familiales et l'indemnité géographique, toujours est-il que ça peut demander à votre conjoint de mettre un frein à sa carrière parce qu'il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'assurance pour que il obtienne ou elle obtienne un poste dans le lycée où vous êtes, surtout pas en tant que détaché, peut-être, mais surtout pas en engagé, et en contrat local aussi peut-être. Donc tout ça, il faut l'envisager parce que d'abord, c'est un vrai choix, c'est un vrai choix familial, et il faut, alors après, bien sûr que quand on peut recruter, on le fait, mais c'est pas systématique. Donc, essayez d'avoir cette réflexion-là en famille, et quand Madame Chartier vous disait qu'il est important de contacter les établissements, vous pouvez les contacter dès maintenant, c'est-à-dire c'est pas la peine d'attendre qu'on vous dise vous venez ou pas, vous pouvez contacter dès maintenant pour comprendre un petit peu quelle est la structure, est-ce que vous aurez, si vous voulez, la possibilité d'avoir un emploi pour mon conjoint, ma conjointe, d'avoir un emploi pour ceux qui m'accompagnent. Est-ce que c'est facile de travailler dans le pays? Est-ce que c'est facile d'obtenir un visa de travail? Parce que ça peut être dans d'autres métiers que ceux du système éducatif ou des écoles dans lesquelles vous avez postulé. Donc, cette réflexion familiale, il ne faut pas la négliger. Elle est très importante aussi. Elle est très importante. La notion de poste double aussi n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes, j'imagine, un couple de directeurs d'école et que vous souhaitez postuler sur 2 postes, enfin, si un poste double, nous, on regarde ça de près. En revanche, rien n'interdit les deux de candidater sur des postes individuellement. Ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une notion de poste double. C'est-à-dire que vous pouvez candidater. Nous, on va regarder que, par exemple, bien sûr, dans un même établissement, ce n'est même pas la peine d'y penser, parce qu'il peut y avoir 2 postes de directeur d'école sur un même établissement. Mais par contre, dans un même pays, sur des établissements différents, pourquoi pas, si les candidatures sont de qualité et qu'elles correspondent à nos attentes, pourquoi pas, ça peut être envisagé. Donc voilà, que ce soit aussi, que tout cela, vous l'ayez aussi en tête au moment de définir exactement, de faire définitivement ce choix de nous rejoindre à l'étranger. Il me semble aussi qu'il est important de vous rappeler quelques éléments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la notion de vous représenter la France. Je vous ai parlé des réseaux, mais je voudrais aussi vous parler de la posture. C'est-à-dire que il faut faire. Je vous ai dit qu'il fallait faire attention à la communication, mais la posture qui est la vôtre dans un lycée français à l'étranger, elle est importante. Et encore plus dans le premier degré, parce que comme vous le savez très souvent, en maternelle, les parents accompagnent leurs enfants jusque dans leur classe, dans la majorité de nos établissements, et les parents sont là tous les jours pour accompagner leurs enfants et le soir pour aller les chercher, y compris à l'élémentaire, vous allez voir, les parents sont très présents. Donc, l'image que vous allez leur envoyer et la posture qui sera la vôtre, elle va être de suite identifiable et identifiée, et donc elle va être scrutée parce que on a eu le cas, c'est pour ça que je le dis, si vous arrivez en tong l'après-midi alors que les parents viennent chercher les enfants, c'est peut-être pas la meilleure façon de donner une image d'un responsable et d'un cadre des lycées français à l'étranger. Il me semble aussi qu'il y a des choses qu'il faut que vous entendiez, même si c'est pour vous évident. Nous, à l'étranger, nous, avec la direction, nous sommes attachés à trois mots importants. Le premier, c'est l'exemplarité. L'exemplarité dans votre mission. L'exemplarité, la manière dont vous allez vous positionner, dont vous allez prendre des décisions avec votre chef d'établissement ou tout seul, et la manière dont vous allez proposer tout cela et communiquer autour de ça. C'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième notion qui est importante à l'étranger, et je sais qu'en France, vous êtes tous des personnels très engagés, mais l'engagement à l'étranger, il est plus important qu'en France. Pourquoi? Parce que vous êtes souvent l'unique référent des personnels. Il n'y a pas, l'IEN est un IEN de zone qui ne viendra pas systématiquement dans votre établissement. Il y a des CPAIEN, mais là aussi, ils ne se déplacent pas systématiquement. Et vous pouvez avoir des maîtres formateurs dans votre établissement avec lesquels vous allez vous appuyer pour faire de la formation. Mais l'engagement, il est l'engagement auprès des élèves, auprès des enseignants, auprès des familles, mais il est aussi l'engagement auprès de tous les personnels, y compris les personnels, et surtout les personnels de droit local, pour lesquels vous allez devoir les accompagner peut-être professionnellement dans les compétences à acquérir ou à approfondir dans leur métier d'enseignant. Alors, vous ne serez pas seul, vous serez appuyé pour ça parce que nous avons créé en janvier 2023 les instituts régionaux de formation. Et ces instituts de régionaux de formation ont vocation dans votre zone à gérer la formation des personnels. Deux axes de formation. Un axe, c'est la formation continuée. La formation continue des personnels titulaires comme des personnels de droit local. Le deuxième axe, c'est la formation d'un public de futurs enseignants qui, eux, ont vocation peut-être à un moment donné à être recrutés dans les établissements partenaires ou peut-être dans un conventionné en tant que recruté local, mais de leur donner petit à petit, par l'imbri de l'IRF, les compétences nécessaires à l'approche du métier d'enseignant dans des classes de maternelle ou d'élémentaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est un axe fort du développement et vous risquez d'être associé, pour certains d'entre vous, à cet IRF et au plan de formation des personnels dans ce cadre de la mission qui vous sera confiée. Et enfin, le dernier mot que je souhaitais vous dire, même s'il est banal et si vous êtes tous convaincus de ce mot, je crois qu'il est important, c'est la loyauté à l'AEFE. C'est-à-dire que l'agence vous recrute. Vous pouvez être critique avec l'agence et on vous le demandera quelquefois hein, sur nos décisions, sur des positions que nous prenons. En revanche, vous êtes des fonctionnaires comme vous, comme moi, et on attend de vous que dans des situations difficiles, vous soyez le relais des décisions qui seront prises par l'agence et que vous soyez loyal à ces décisions. Ça, c'est vraiment très important. L'AEFE vit dans certains pays des turbulences importantes. Hein. Et on a besoin que les cadres qui sont dans nos établissements soient des cadres qui portent la parole de l'agence, voire la parole de l'État. Et donc, on se doit de faire ça. Et vous êtes aussi regardé par ça, et par le poste diplomatique et par l'AEFE. Je pense que c'est important que vous ayez tout cela bien en tête au moment de finaliser votre dossier ou au moment de partir, lorsque nous vous aurons recruté. En tout état de cause, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que toutes les directions de l'agence sont à vos côtés si vous êtes en difficulté. Nous on est à la DRH, donc on sera plutôt la partie, si vous voulez, liée à votre contrat, ça vous a été dit, liée à votre rémunération, liée à des problèmes avec des enseignants, parce qu'on fait le dialogue social aussi, donc on est en relation avec vous lorsque vous avez des difficultés, lorsqu'il y a des problématiques. Aujourd'hui, vous savez qu'un des sujets, par exemple, c'est le harcèlement, et que des sujets de harcèlement, on en a de plus en plus. Donc, on fait partie, avec mes équipes, et notamment la DRH adjointe, du groupe de signalement. Donc, on reçoit vos signalements, on les travaille avec vous, on a cette relation avec vous. Mais vous avez le secteur géographique qui dépend de la direction du développement, qui est une entrée importante dans votre mission. Et vous avez quelque chose de très important, parce que nous sommes des pédagogues. Le cœur de notre métier, c'est l'enseignement, puisqu'on est dans des collèges et lycées, des écoles et collèges et lycées. C'est la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation, ce qu'on appelle la DEOF, à l'intérieur de laquelle vous avez les inspecteurs pédagogiques régionaux, et vous avez un inspecteur pédagogique qui est un référent premier degré, qui lui pilote avec les 18 IEN du monde l'accompagnement des équipes, la formation et les montées en homologation. Donc ça aussi, c'est une direction très importante. Ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. Toute question est bonne, et on essaiera, avec les personnes les plus compétentes, d'apporter les réponses qui sont les plus adaptées au questionnement qui est le vôtre. Nous ne vous abandonnerons pas en chemin si vous avez des questions. En revanche, n'hésitez pas à les poser et ne vous sentez pas isolé. Je pense que c'est la plus grosse difficulté que l'on peut rencontrer, c'est quand on est un peu submergé, c'est de se renfermer et de ne pas communiquer. Pour avoir vécu à l'étranger un certain nombre d'années en tant que chef d'établissement, je peux vous dire que j'ai eu des moments très difficiles dans certains endroits et que j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi des collègues et l'agence pour m'aider dans des moments compliqués et qu'il n'y a pas de culpabilité ou de peur à avoir. On n'est pas jugé sur les difficultés que l'on peut rencontrer. En revanche, si on fait une erreur stratégique ou de communication et qu'on n'a pas communiqué avant ou qu'on n'a pas pris des références avant, ça peut être préjudiciable pour votre mission. Voilà comment je peux le dire d'une manière, je crois, entendable par tout le monde. Donc, on est à votre service et on est là pour vous accompagner. Vous rentrez dans une carrière qui va durer... on l'espère pour les nouveaux 10 ans, si ça se passe bien, parce que vous pouvez faire 2 missions de 5 ans à l'étranger. Ça, c'est possible. Et vous verrez, pour ceux qui sont déjà venus et ceux qui repartent, que c'est quand même une très belle mission. Il y a un autre mot important que je n'ai pas dit, mais qu'on vous dira au séminaire des partants, c'est que si vous partez à l'étranger, il faut que vous ayez un esprit ouvert sur le pays dans lequel vous allez, ouvert sur la culture de ce pays et respectueux de la culture du pays dans lequel nous allons, pour ne pas être aussi déçu après par rapport, comme ça a été dit, hein, vous aurez une semaine pour réfléchir et accepter le poste. Si vous sentez que ça ne correspond pas à vous, n'hésitez pas à dire ben non, je préfère ne pas y aller parce que je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Et je pense que ça fait partie, et on ne vous en voudra pas, et si on peut retravailler avec vous sur une autre affectation, on le fera, et si on peut vous garder en réserve, comme on le fait parfois, on le fera aussi pour trouver la bonne adéquation entre votre profil et le poste qu'on a à pourvoir pour la rentrée prochaine.
J'aurais voulu ajouter un point concernant l'exigence des langues, en fait. Sur certains profils, en fait, on est indiqué qu'on une maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol est indispensable. On fait toujours référence au CECRL par rapport à cette maîtrise des langues. Nous n'exigeons pas une certification particulière. Donc, si vous avez une certification de la part de Cambridge ou de l'Institut Cervantes ou autre, c'est très bien. Ce n'est pas toujours évident de nous la produire. Donc, certains candidats, en fait, ont effectué des tests par Internet. Donc, on accepte également ces justificatifs. C'est donc du déclaratif. Le plus important, en fait, c'est vraiment d'être le plus objectif possible dans votre niveau de maîtrise de la langue. Si vous déclarez un mauvais niveau, en fait, vous risquez d'être en difficulté une fois que vous êtes sur place, parce qu'effectivement, dans certains pays, la maîtrise, par exemple, de l'anglais est indispensable pour échanger, notamment avec les parents d'élèves. Donc voilà, soyez quand même attentifs sur les postes qui sont dans des zones qui demandent une maîtrise de l'anglais ou de l'espagnol. Ce sont souvent ces deux langues qui sont demandées.
Et l'allemand.
Je ne sais pas si on a des postes en allemand cette année. S'il y en a, c'est important aussi. Donc soyez le plus objectif possible sur votre déclaration de langue. Si vous pouvez effectivement produire un document, c'est l'idéal. Sinon. Sur les auto-évaluations sur Internet, on accepte également. On a aussi pas mal de questions de la part de candidats sur le retour en France, en fait, à l'issue de votre contrat chez nous. Donc, vous réintégrez votre département d'origine. Votre poste n'aura pas été conservé pendant 5 ans par votre DSDEN. Donc, vous allez reparticiper au mouvement départemental. Effectivement, on ne peut pas vous assurer que vous allez récupérer un poste de directeur d'école. Ça dépend forcément de la situation dans votre département d'accueil. Donc, effectivement, c'est au moment de la réintégration de reprendre contact aussi rapidement avec votre DSDEN pour vous signaler et essayer d'obtenir des postes de direction d'école à votre retour. C'est un point qui est important. Nous, on essaye de vous accompagner, mais la décision, elle appartient à votre DSDEN sur l'affectation à votre retour.
Et on travaille actuellement avec les directions des ressources humaines et les secrétariats généraux des académies, justement, pour essayer de valoriser les retours. C'est-à-dire que dans les postes que vous allez occuper, beaucoup seront déchargés à plein temps, dans une posture presque de personnel d'encadrement, de personnel de direction. Et donc, c'est vrai que le retour en France, il doit être aussi scruté avec les compétences que vous aurez acquises dans cette mission à l'étranger. Donc, on est en train de lancer depuis 2 ans un travail avec les directions internationales de l'encadrement et on regarde de près la situation des directeurs d'école parce que c'est la situation la plus complexe. Très souvent, des collègues se retrouvent après 10 ans chez nous dans une école, dans une petite école, mais qui ne correspond pas vraiment et qui ne retrace pas tout le parcours qui a été fait à l'étranger. Donc, on a cette réflexion là et ce travail qui est engagé. Alors ça ne sera pas facile pour tout le monde, mais on essaie de prendre en compte cette situation très spécifique des directeurs des écoles à l'étranger qui est quand même très différente.
Je pense
on a
qu'on
fait le
en a
tour.
Terminé. Juste parce que j'ai vu des questions, notamment une question, effectivement, je n'ai pas précisé sur les avis hiérarchiques, c'est bien le COCAC à l'étranger qui nous renverra l'avis directement. Ce n'est pas à vous de nous le renvoyer. C'est bien le COCAC qui nous l'envoie, qui nous envoie d'ailleurs uniquement la page des avis, sans le dossier, parce que le dossier, vous nous l'avez déjà envoyé, on l'a. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu aussi comme question? Oui, un seul dossier, si vous postulez sur un poste de MFE et un poste de direction, vous ne faites qu'un seul dossier. Tout à fait.
Il y a une question aussi par rapport au nouveau statut des personnels détachés à l'étranger. Donc, ce nouveau statut, en fait, autorise les personnes qui sont déjà dans le pays à solliciter un poste dans le même pays. Ce n'est pas bloquant. En revanche, dans la même ville, on étudiera quand même avec attention ces demandes. On repart sur un nouveau contrat de personnel d'encadrement, de direction d'école. Donc, on regardera attentivement si c'est dans la même ville. Mais en étant déjà dans le pays, vous pouvez faire un dossier.
Et puis, pour toutes les questions qui vont être peut-être un peu plus précises, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, nos coordonnées sont sur le site. Il y a une adresse mail générique, un numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone apparaît également sur le site à la rubrique personnel détaché d'encadrement directeur. En bas de page, vous aurez mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions.
Il y a une question importante sur la liste d'aptitudes. Effectivement, on ne peut vous recruter sur un poste de directeur d'école que si vous êtes titulaire d'une liste d'aptitudes. Si vous avez eu la liste d'aptitudes il y a plusieurs années, mais que vous êtes toujours sur un poste de direction d'école, on n'exige pas un nouvel arrêté vous inscrivant sur la liste d'aptitudes. Par contre, si votre liste d'aptitudes remonte à quelques années et que depuis, vous n'êtes plus sur un poste de direction d'école, on ne peut pas vous recruter. Il faut absolument une liste d'aptitudes qui soit valide au moment du recrutement. Donc, c'est vraiment une condition sine qua non, la liste d'aptitudes.
Très bien. Écoutez, merci. On reste en contact. Vous avez bien compris que mes collègues sont là pour répondre encore à vos questions et de manière un peu plus individualisée si vous les sollicitez. Merci beaucoup. Très bonne continuation à toutes et tous. Et puis, au plaisir de nous revoir prochainement. Merci.
Merci. Au revoir. Au revoir.